Chapitre 9. En 1993, Michel et moi avons acheté notre premier appartement dans un complexe résidentiel du quartier de Hyde Park à Chicago, du nom d'East View Park. C'était un endroit merveilleux, situé en face de Promontory Point et du lac Michigan, avec des cornouillers dans une vaste cour intérieure qui se parait d'une profusion de fleurs roses au printemps. Notre trois pièces, disposées en enfilade, n'étaient pas très grands, mais il y avait du beau parquet en bois, beaucoup de lumière et une vraie salle à manger avec des placards en noyer. En comparaison du premier étage de la maison de ma belle-mère, où nous avions habité jusqu'alors afin de mettre de l'argent de côté, nous avions l'impression de vivre dans un palace, et nous l'avons meublé aussi joliment que nous le permettaient nos finances, avec un canapé Crate & Barrel, des lampes de chez Ace Hardware et des tables chinées dans les brocantes. Un petit bureau jouxtait la cuisine, où je travaillais le soir. Michel l'avait baptisé « le trou », parce qu'il était encombré du sol au plafond de piles de livres, de magazines, de journaux, de dossiers judiciaires et de copies à corriger. Une fois par mois environ, n'arrivant pas à dénicher tel ou tel document dans ce capharnaüm, je me retroussais les manches pour mettre un peu d'ordre dans le trou, m'échinant à tout ranger frénétiquement pendant une heure, et pendant environ trois jours, j'étais très fier de moi, après quoi les livres, la paperasse et le fatras en tout genre envahissaient de nouveau le trou comme du chien-dent. C'était aussi la seule pièce de l'appartement où je fumais, même si, après la naissance des filles, j'ai pris l'habitude de sortir sur la petite terrasse légèrement de guingois à l'arrière de l'appartement pour satisfaire mon vice, dérangeant parfois une famille de ratons laveurs en train de farfouiller dans nos poubelles. Les enfants ont reconfiguré notre foyer de toutes sortes de façons. Des protections en mousse sont apparues au coin des tables. La salle à manger a bientôt moins servi à manger qu'à accueillir des parcs pour bébés, des tapis multicolores et les jouets sur lesquels je trébuchais au moins une fois par jour. Mais loin de nous paraître étriqués, les dimensions modestes de cet appartement ne faisaient qu'amplifier le joyeux boucan de notre jeune famille. Bruit d'éclaboussures à l'heure du bain, éclat de rire et piaillement des goûters d'anniversaire, groove de la Motown ou salsa endiablée s'échappant du radiocassette posé sur le manteau de cheminée, au rythme desquels je faisais tournoyer les filles dans mes bras. Et si nous remarquions bien que certains de nos amis du même âge que nous achetaient de plus grandes maisons, dans des quartiers plus chics, nous n'avons songé à déménager qu'une seule fois. L'été où une souris s'est installée chez nous, ou deux peut-être, aucun moyen d'en être sûr, que nous voyions sans cesse filer en trottinant le long des plinthes du couloir. Je finirai par régler le problème en réparant le parquet de la cuisine, non sans avoir contesté au préalable, avec une sottise admirable et un sourire de petit malin, l'idée selon laquelle deux souris constituaient véritablement une infestation, à quoi Michel avait répliqué en menaçant de partir avec les filles. Nous avions acheté cet appartement 277 500 $, avec un apport de 40%, grâce à un petit coup de pouce de toutes, et un emprunt à taux fixe sur 30 ans. Sur le papier, nos revenus nous permettaient largement de couvrir les mensualités. Mais à mesure que Malia et Sacha grandissaient, les frais de garde, de scolarité et le coût des colonies de vacances ne cessaient d'augmenter, alors que le montant des remboursements de nos emprunts étudiants, lui, semblait ne jamais décroître. Nous étions constamment dans le rouge. Notre taux d'endettement grimpait, nous n'avions pas beaucoup d'argent de côté. Alors quand Marty nous a suggéré de renégocier notre emprunt pour profiter de la baisse des taux d'intérêt, j'ai appelé un courtier immobilier du quartier. Le courtier, un jeune homme plein d'énergie, les cheveux coupés en brosse, nous a confirmé qu'un rachat de notre emprunt pouvait nous permettre d'épargner une centaine de dollars par mois. Mais compte tenu de l'explosion des prix de l'immobilier, il m'a demandé si nous avions également réfléchi à la possibilité d'utiliser la valeur résiduelle de notre propriété pour récupérer des liquidités grâce à cette transaction. Rien de très compliqué, a-t-il ajouté. Il suffisait de confier le dossier à son expert en financement. J'étais sceptique au début. Il me semblait entendre la voix pleine de bon sens de toutes me mettre en garde. Mais quand j'ai fait mes calculs, et vu la somme que nous pourrions économiser en épongeant notre dette bancaire, le raisonnement du courtier m'a soudain paru difficile à contredire. Sans même que l'expert ni le courtier aient pris la peine de venir estimer notre appartement, il m'a suffi de présenter nos trois derniers bulletins de salaire, une poignée de relevés de compte, puis de paraffer quelques papiers, et je suis ressorti du bureau du courtier avec un chèque de 40 000 $ et la vague impression que je venais de commettre un braquage en toute impunité. Voilà ce qui se passait au début des années 2000, une véritable ruée vers l'or immobilière. À Chicago, les lotissements neufs semblaient pousser comme des champignons. Les prix du mètre carré grimpaient à une vitesse vertigineuse. Les taux d'intérêt étaient bas, et certains organismes de prêt ne demandaient que 5 ou 10% d'apport, ou même rien du tout, pour une opération d'achat immobilier. Alors pourquoi se priver d'une chambre supplémentaire, du plan de cuisine en granit et du sous-sol aménagé qui, à en croire les magazines et les émissions à la télévision, était devenu la norme chez les classes moyennes? C'était un formidable investissement, sans risque, et une fois que vous l'aviez acheté, votre nouvelle maison pouvait vous servir également de distributeur de cash personnel, vous permettant de changer les fenêtres, de vous payer cette semaine à Cancun, dont vous rêviez depuis si longtemps, ou de compenser le fait que vous n'aviez pas été augmenté l'année précédente. Ne voulant surtout pas passer à côté d'une telle opportunité, des amis, des chauffeurs de taxi, des enseignants, me racontaient qu'ils s'étaient lancés dans l'investissement immobilier. Et soudain, tout le monde parlait couramment la langue des hypothèques à versement forfaitaire, du crédit à taux révisable et de l'indice Case-Shiller. Si je me hasardais à les inciter à la prudence, l'immobilier est un marché imprévisible, ne vous emballez pas trop, ils m'assuraient qu'ils avaient discuté avec leur cousine ou avec leur oncle, qui avait réalisé une plus-value du tonnerre, d'un ton légèrement amusé, laissant entendre que je n'y connaissais rien. Quand j'ai été élu au Sénat, nous avons revendu notre appartement d'East View Park à un prix suffisamment élevé pour pouvoir rembourser notre emprunt immobilier, notre crédit hypothécaire, et en tirer en plus un petit profit. Mais un soir, alors que je rentrais chez moi en voiture, je suis passé devant les bureaux de mon courtier et j'ai remarqué que tout était vide à l'intérieur. Dans la vitrine, un grand panneau annonçait « à vendre ou à louer ». Tous ces nouveaux immeubles résidentiels qui avaient jailli dans les quartiers de River North et du South Loop avaient l'air inoccupés, en dépit des prix au rabais proposés par les promoteurs. Une ancienne collaboratrice de mon staff, qui avait quitté la fonction publique pour se lancer dans l'immobilier, m'a demandé s'il y avait des ouvertures de poste quelque part. Son projet de reconversion ne tournait pas aussi bien qu'elle l'avait espéré. Je n'étais ni surpris ni inquiet. Tout cela me paraissait normal. C'était les aléas cycliques du marché. Mais un jour, à Washington, j'ai évoqué la fragilité du marché immobilier à Chicago devant mon ami George Haywood, avec qui je mangeais un sandwich dans un parc près du Capitole. George avait quitté la fac de droit de Harvard pour devenir joueur professionnel de blackjack, puis son habileté à manipuler les chiffres et sa capacité à prendre des risques lui avaient permis de trouver un job de spécialiste des marchés obligataires à Wall Street, et il avait fini par faire fortune grâce à ses investissements personnels. Avoir une longueur d'avance était son métier. « Ce n'est que le début », m'a-t-il dit. « Comment ça ?»« Le marché du logement », a développé George. « Le système financier ». Tout ça n'est qu'un grand château de cartes sur le point de s'effondrer. Assis au soleil sur un banc, il m'a donné un cours accéléré sur le marché des prêts hypothécaires à risque, les subprimes. Alors qu'autrefois, les banques conservaient en général les prêts hypothécaires qu'elles consentaient dans leur propre portefeuille, un pourcentage colossal de ces prêts était désormais regroupé et vendu sous forme de titres à Wall Street. Dans la mesure où les banques pouvaient dès lors se décharger du risque de voir tel ou tel emprunteur particulier se retrouver en défaut de paiement, cette titrisation des contrats de prêt les avait conduites à assouplir régulièrement leurs critères d'octroi. Les agences de notation financière, rémunérées par les émetteurs, avaient attribué un triple A à ces titres, autrement dit la note maximale, indiquant qu'ils ne présentaient pas de risque, sans analyser à sa juste mesure le risque de défaut sur les actifs sous-jacents. Les investisseurs mondiaux, qui disposaient d'énormes quantités de liquidités et qui étaient ravis à l'idée d'augmenter leur retour sur investissement, se sont précipités pour acheter ces produits, drainant toujours plus d'argent vers le secteur du financement du logement. Entre-temps, la Federal National Mortgage Association, dite Fannie Mae, et la Federal Home Loan Mortgage Corporation, Freddie Mac, les deux sociétés géantes que le Congrès avait autorisées à acheter des prêts garantis afin d'encourager l'accès à la propriété, et qui, en vertu de leur statut quasi-gouvernemental, pouvaient emprunter à des taux bien moins élevés que d'autres sociétés, baignaient dans le marché des prêts hypothécaires et rapportaient des fortunes à leurs actionnaires grâce à la prospérité du marché de l'immobilier. Tout cela, de manière tout à fait classique, a fini par former une bulle, a continué George. Tant que les prix de l'immobilier grimpaient, tout le monde était content. La famille qui pouvait tout à coup s'acheter la maison de ses rêves sans débourser un sou, les promoteurs qui n'arrivaient pas à construire assez vite pour suivre la demande, les banques qui réalisaient de jolis profits en vendant des produits financiers toujours plus complexes, les banques d'investissement et de gestion de fonds spéculatifs, qui plaçaient des sommes de plus en plus importantes sur ces produits financiers avec de l'argent emprunté, sans parler des magasins d'ameublement, des fabricants de moquettes, des syndicats et du département marketing des journaux, qui avaient tous intérêt à ce que la fête continue. Mais avec tous ces acheteurs non solvables qui encombraient le marché, George était convaincu que la fête serait bientôt finie. « Ce que j'avais remarqué à Chicago n'était qu'un frémissement », m'a-t-il dit. « Quand le séisme se déclencherait pour de bon, La secousse serait bien pire dans des endroits comme la Floride, l'Arizona et le Nevada, où le marché des prêts hypothécaires était le plus actif. Dès qu'un certain nombre de propriétaires se déclareraient en défaut de paiement, les investisseurs se rendraient compte que beaucoup de ces titres adossés à des créances hypothécaires n'étaient pas si triple A que ça, finalement. Tout le monde se précipiterait vers les issues de secours en essayant de revendre ces titres le plus vite possible. Les banques qui les détenaient, fragilisées par cette fuite de capitaux, mettraient sans doute un coup de frein à l'octroi de prêts afin de compenser leurs pertes ou de maintenir leurs obligations en matière de fonds propres, si bien que les ménages, même solvables, auraient le plus grand mal à contracter de nouveaux emprunts, ce qui ne ferait qu'accentuer encore la déprime du marché immobilier. Un cercle vicieux susceptible de déclencher la panique sur les marchés financiers, et compte tenu des quantités d'argent en jeu, cela déboucherait sur une crise économique comme nous n'en avions jamais connue de notre vivant. J'ai écouté ces explications avec une incrédulité croissante. George n'était pas du genre à exagérer, surtout quand il était question d'argent. Lui-même avait investi massivement en positions courtes, pariant que le taux des titres adossés à des créances hypothécaires allait finir par dégringoler. Je lui ai demandé comment il était possible, si le risque d'une crise économique majeure était si élevé, que personne n'en parle, ni la Réserve fédérale, ni les institutions de réglementation bancaire, ni la presse financière. George a haussé les épaules. Aucune idée. De retour à mon bureau au Sénat, j'ai demandé à un attaché de vérifier auprès de ses homologues à la commission bancaire si quelqu'un s'inquiétait de la hausse du marché des subprimes. Réponse, négatif. Le président de la Réserve fédérale avait indiqué que le marché de l'immobilier était un peu en surchauffe et qu'il conviendrait peut-être de procéder à quelques ajustements, mais que, compte tenu de l'historique des tendances, il ne voyait planer aucune menace sur le système financier ou sur l'économie américaine dans son ensemble. Étant donné qu'un certain nombre d'autres sujets requéraient mon attention, à commencer par le lancement des campagnes pour les élections de mi-mandat, l'avertissement de George m'est plus ou moins sorti de l'esprit. Du reste, quand je l'ai revu environ 2 mois plus tard, début 2007, le marché financier et le marché de l'immobilier avaient continué de ralentir, mais il ne semblait pas y avoir de raison de s'inquiéter. George m'a dit qu'il avait dû abandonner ses positions courtes après avoir essuyé de lourdes pertes. « Je n'ai tout simplement plus assez de cash pour continuer d'investir », m'a-t-il dit avec un certain flegme. « Apparemment, j'ai sous-estimé à quel point les gens sont prêts à se voiler la face. » Je n'ai pas demandé à George combien il avait perdu, et nous sommes passés à d'autres sujets. Quand nous nous sommes quittés ce jour-là, nous ne savions pas que les gens allaient bientôt être obligés d'arrêter de se voiler la face, ni que les terribles retombées de cet aveuglement collectif allaient, d'ici 18 mois à peine, jouer un rôle crucial dans mon élection à la présidence. Sénateur Obama, Hank Paulson à l'appareil. Nous étions une semaine et demie après la convention nationale du Parti républicain, 11 jours avant mon premier débat avec John McCain. Les raisons pour lesquelles le secrétaire au Trésor américain voulait me parler paraissaient évidentes. Le système financier était en train de s'effondrer et d'emporter l'économie américaine dans sa chute. Même si la question la plus brûlante au début de notre campagne avait été la situation en Irak, j'avais toujours réservé une place centrale dans mon argumentation en faveur du changement à la nécessité d'une réorientation plus progressiste de notre politique économique. Selon moi, les facteurs combinés de la mondialisation et de la révolution des nouvelles technologies avaient altéré en profondeur l'économie américaine depuis au moins 2 décennies. Les industries américaines avaient délocalisé leur production à l'étranger, ce qui leur permettait de réexpédier aux États-Unis des produits bon marché, fabriqués par une main-d'œuvre à moindre coût, revendu ensuite par de grandes enseignes commerciales qui ne laissaient aucune chance aux petites et moyennes entreprises moins compétitives. Plus récemment, l'avènement d'Internet avait balayé un certain nombre de catégories professionnelles du secteur tertiaire et, dans certains cas, des industries entières. Dans cette nouvelle économie fondée sur la prime aux gagnants, ceux qui contrôlaient le capital ou possédaient des compétences hautement spécialisées et prisées, que ce soit des entrepreneurs de nouvelles technologies, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des stars comme le basketteur LeBron James ou le comédien Jerry Seinfeld, pouvaient rentabiliser leurs actifs, avoir accès au marché mondial et amasser plus de richesses que n'importe quel groupe d'individus dans toute l'histoire de l'humanité. Mais pour les travailleurs lambda, la mobilité des capitaux et l'automatisation se traduisaient par un affaiblissement croissant de leur pouvoir de négociation. Les villes industrielles perdaient leur force vive. La faible inflation et les écrans plats bon marché ne pouvaient pas compenser les licenciements, la réduction du temps de travail et le travail par intérim, le gel des salaires et la diminution des bénéfices, surtout quand le coût de l'assurance maladie et de l'éducation, deux secteurs moins concernés par les économies d'argent que permettait l'automatisation du travail, ne cessaient de grimper en flèche. Les inégalités aussi s'aggravaient à leur façon. Même les Américains de la classe moyenne, confrontés à la hausse du coût de la vie, étaient de plus en plus souvent obligés de quitter les quartiers où se trouvaient les meilleures écoles ou les villes offrant les meilleures perspectives d'emploi. Ils n'avaient pas les moyens de procurer à leurs enfants les avantages, cours de préparation aux examens d'entrée à l'université, séjours d'initiation à l'informatique pendant les vacances d'été et autres stages en entreprise non rémunérés mais d'une valeur inestimable, qui étaient monnaie courante dans les ménages plus aisés. En 2007, l'économie américaine générait non seulement plus d'inégalités que dans presque n'importe quel autre pays riche, mais aussi moins de mobilité sociale. Je pensais que ces problèmes n'étaient pas une fatalité, mais plutôt la conséquence de choix politiques qui remontaient à la présidence de Ronald Reagan. Sous la bannière de la liberté économique, une société de propriétaires, pour reprendre la formule du président Bush, les Américains avaient vu se multiplier les réductions d'impôts pour les plus riches, tandis que les lois sur les négociations collectives n'étaient pas appliquées. On s'était efforcé de privatiser ou de réduire le filet de protection sociale, et les budgets fédéraux avaient systématiquement sous-investi dans tous les domaines, de l'encadrement de la petite enfance aux infrastructures. Tout cela avait entraîné un accroissement des inégalités, qui avait rendu les ménages vulnérables face aux moindres turbulences économiques. Je faisais campagne pour mener le pays dans la direction opposée. Je ne croyais pas que l'Amérique puisse inverser le cours de l'automatisation du travail ou rompre la chaîne d'approvisionnement mondiale, même si je pensais que nous pouvions négocier des clauses plus rigoureuses en matière de travail et d'environnement dans nos accords commerciaux. Mais j'étais certain, en revanche, que nous pouvions adapter nos lois et nos institutions, comme nous l'avions fait par le passé, afin de donner des chances équitables à tous ceux qui désiraient travailler. À chacune de mes étapes, dans chaque métropole, chaque petite ville, mon message était le même. Je promettais d'accroître les impôts sur les revenus les plus élevés afin de pouvoir réaliser des investissements essentiels dans l'éducation, la recherche et les infrastructures. Je promettais de renforcer les syndicats et d'augmenter le salaire minimum, mais aussi d'instaurer une couverture santé universelle et de rendre plus abordable l'accès aux études supérieures. Je voulais que les gens aient conscience que ce genre de mesures gouvernementales audacieuses avait un précédent. Franklin Delano Roosevelt avait sauvé le capitalisme de lui-même et posé les fondations d'un boom économique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je répétais que l'encadrement du travail par une législation forte avait permis l'émergence d'une classe moyenne et d'un marché domestique florissant, et que les lois relatives à la protection des consommateurs, en éliminant les produits dangereux et les mécanismes frauduleux, avaient contribué à l'épanouissement et à la prospérité du commerce légitime. J'expliquais que c'était la force de l'école publique et des universités d'État, ainsi que des lois telles que le GI Bill, destiné à aider les anciens combattants à se réinsérer dans la société, qui avait libéré le potentiel de générations entières d'Américains et favorisé l'ascension sociale. Le régime des allocations et le système d'assurance santé fédérale Medicare avaient permis à ces mêmes Américains de conserver une certaine stabilité après la retraite, et des investissements publics comme ceux dont avaient bénéficié le réseau autoroutier et le secteur de l'énergie, par exemple avec la création de la Tennessee Valley Authority dans le cadre du New Deal dans les années 1930, avait boosté la productivité et fourni un tremplin pour d'innombrables entrepreneurs. J'étais convaincu que nous pouvions adapter ces stratégies à l'époque actuelle. Au-delà de telle ou telle mesure politique en particulier, je voulais que les gens se rappellent le rôle crucial que le gouvernement avait toujours joué dans la promotion de l'égalité des chances, de la compétitivité et des pratiques équitables afin que le marché puisse bénéficier à tout le monde. Ce que je n'avais pas prévu, c'était une crise financière majeure.